que ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio qui pique.
Il y avait une question au fond.
Oui. C'était pour savoir s'il y avait des endroits des zones géographiques qui n'avaient pas du tout été touchées par justement les mythes de certains mythes qui se retrouvent dans des parties très différentes du globe, qui ont vraiment d'autres façons d'expliquer les choses, et si c'était dû à, je sais pas, des, par exemple au fait que c'était des zones qui n'étaient pas commerciales, qui n'étaient pas en rapport avec les autres. Parce que j'avais lu à un moment donné, c'était les contes d'Amazonie, donc il y avait cette idée que la création de la Terre, enfin, en tout cas, ça ne retrouve pas des choses que j'ai vues, par exemple, dans les grandes religions.
D'accord, la création de la Terre, il y a quoi? Parce qu'en Amazonie, il y a plein de versions différentes de création de la Terre.
Donc... Je n'ai plus le nom exact, mais du coup, c'était une version, et il y avait un dieu créateur, à un moment donné, il a rêvé, c'était la Terre, un désir qui s'est manifesté, dont lui, il a rêvé, et à partir de là, il a soufflé dans une flûte qui a lancé un esprit, en fait, et qui a formé la Terre.
Est-ce que vous vous rappelez de la famille linguistique ou du peuple?
Les isola mythologiques, c'est un peu ça ta question, non? Est-ce que ça existe les isola mythologiques? Tu vois, quand on parle d'isola linguistique, le fait qu'il est là, le basque par exemple, qui ne ressemble pas du tout à ses voisins. Est-ce que c'est un peu ça ta question?
C'est-à-dire qu'il y a un mythe là. J'avais pas le mot, mais voilà, est-ce qu'il y a des
peuples
qui sont vraiment complètement isolés, qui ont des croyances complètement vraiment différentes, qui ont été touchées par le grand récit, on va dire.
Alors, d'abord, je serais ravi d'avoir le mythe. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en Amazonie, on projette plein de mythes. Et il y a un mythe qui est très répandu, celui du colibri. Vous savez, il y a un incendie, les petits colibris apportent, etc. On dit oui, c'est un mythe amazonien, on change à chaque fois. Et en fait, rien du tout. C'est un mythe qui a été inventé, qu'on attribue à des. Et c'est répété. En fait, tout le monde répète oui, ça vient d'Amazonie. Parce qu'en même en Amazonie, il y a une forêt. Voilà, c'est il y a des colibris. Hein?
C'était les contes d'Amazonie, donc il y avait, je sais plus le nom de la personne qui a collecté tous les...
Voilà, donc d'abord il y a cette première question au niveau de la source, parce que faut toujours se méfier des sources, et avec tout le respect que je dois aux éditions du Seuil, il y a un certain nombre de... En feuilletant certains ouvrages, c'est des belles histoires. C'est de belles histoires d'un point de vue purement scientifique. Il se peut que dans la collection Sagesse, par exemple, il y a des choses où ils prennent un petit peu leurs aises avec la réalité, connaissant le récit de base. Après, c'est bien, parce que finalement, le mythe, c'est aussi raconter des histoires, c'est faire rêver, c'est d'autres fonctions que d'être sèchement réduit à des chaînes linéaires pour pouvoir en reconstituer les trois versions, etc. J'aime autant lire les mythes, je vous promets que lorsque je lis un mythe, je ne vois pas des chaînes binaires qui se découpent de petits points. Il y a un vrai plaisir, c'est juste que je vais un peu plus loin. Donc la première chose, c'est ça. Ensuite, la deuxième chose, possiblement, ça peut être attaché parce que là encore, c'est lié aux biais qui sont liés à notre société. Mais par exemple, en Australie, le temps du rêve, il n'y a pas eu de création du monde. Il y a des créatures surnaturelles qui arpentent le monde, de grands serpents qui vont faire des rivières, des kangourous qui vont sauter, ça va expliquer deux mares dans un coin. Et cette idée de création du monde et de choses qui sortent du monde pourrait s'expliquer par là, mais pour ça il faudrait le peuple, la région géographique et la famille linguistique. Je sais, c'est casse-pied, mais là encore, il y a deux, trois choses qui pourraient coller, pas avec une flûte. Mais avec cette idée d'un démiurge qui accouche les choses. Okay. Ensuite, comme isola linguistique. Voilà, on en est clair. Alors, le problème de l'isola linguistique, ça implique qu'il n'y ait aucun contact avec l'extérieur, ça implique que l'humanité. Parce que finalement, comme je vous ai dit, il y a des choses qui nous ont suivi, des premières migrations, ça implique qu'ils aient non seulement oublié leur premier mythe, mais ils en aient recréé radicalement de nouveaux. A priori, pour le moment, j'en ai trouvé aucun. J'ai cherché, parce que, en fait, c'est très intéressant, c'est une vraie expédition que je me suis posée, et trouver un isolant linguistique, ça permettrait par exemple de mesurer à quelle vitesse les villes divergent les uns des autres, pouvoir dater la vitesse d'évolution d'un mythe, etc. Donc, ça aurait des conséquences absolument colossales, parce que là, moi, ce qui me manque en grande partie, c'est mon horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'en moyenne, on mute à une certaine vitesse, même s'il y a des questions dessus, pour les limites, je n'ai pas ça. Donc j'ai cherché en Tasmanie, parce que la Tasmanie, c'est isolé de l'Australie, il y a eu une chute de population, donc en fait, d'un point de vue technologique, ils ont perdu un certain nombre de choses, et j'ai regardé s'il y avait des mythes juste Tasmanie. Sachant qu'il y a un problème, c'est que les mythes tasmaniens ont été récupérés en dernière minute par les explorateurs, ce qui ne rend pas les choses très très fiables. Le problème, c'est que j'ai trouvé les mythes tasmaniens, je les ai retrouvés en Australie. Ça, c'est encore un chantier auquel il faut que je m'attaque, parce que ça veut dire qu'on a un peu daté probablement des divergences, mais j'ai un problème de documentation. J'ai essayé avec les mythes basques, parce qu'on dit les basques, que c'est un isolat linguistique, que ça garde des choses qui sont très très anciennes. J'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes. Un travail que j'ai fait avec Jean-Louis de Québec, qui s'intéresse aux mêmes problématiques que moi. Il existe un mythe que vous connaissez peut-être, une croyance dans les Izi. Izi, qui est un terme qui est utilisé pour désigner des animaux sauvages, souvent des bovinés, souvent des chevaux, qui sortent des grottes et qui courent après des passants. Et ça, on le retrouve plutôt concentré en territoire basque. Et ce qui était intéressant, même si aujourd'hui j'en reviens un peu honnêtement, parce que le problème c'est que plus on lit, plus on apprend des choses, plus on apprend des choses, plus on nuance son concept, hein, c'est le principe rappelé des dominos, hein, c'est un peu les règles du jeu. Les Izi signifieraient animaux sauvages. Or, ça fait un moment que les chevaux et que les taureaux, c'est plus des animaux sauvages.
Il y avait des chevaux sauvages.
Oui, mais c'est des chevaux qui sont retournés à l'état sauvage. Alors, dans le fait, l'article est vieux, je suis désolé, je suis en train de rechercher parce que c'est un article que j'ai écrit il y a un moment. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple alors que je n'ai pas retouché à cet article depuis un bon moment. Donc, si globalement je me rappelle de l'idée. En fait, j'avais cherché dans les sources ethnographiques les derniers aurochs des Pyrénées. Sauf qu'en Amas, c'était autour du XVIe siècle. On avait quelques chevaux sauvages aussi, qui ne sont pas des chevaux qui sont retournés à l'état sauvage. Et il faut revérifier, je vous renvoie, ça s'appelle tapez Easy et Tui, vous retrouverez. J'espère ne pas me contredire moi-même. Et ça avait été du XIIe siècle. Et ça veut dire que cette idée d'Izi, hein, qui renvoie des animaux sauvages, ce mythe renvoyait forcément à une période antérieure, à une période où les taureaux et les chevaux étaient encore sauvages et pouvaient pourchasser les humains. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les grottes pyrénéennes, les deux animaux principalement représentés, c'est pas les bisons et les chevaux, c'est les aurochs et les chevaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les aurochs et les chevaux sont représentés particulièrement fléchés. Sauf qu'un auroch, ça ne se mange pas un auroch, c'était réputé, tous les documents historiques qu'on possède, c'est quand on voyait un auroch, on courait pour sauver sa vie. C'est un animal qui était terriblement agressif, qui était chassé, mais qui était chassé comme une chasse de prestige, et qu'on ne s'amusait pas à fléchir, donc la magie de la chasse, ça ne marche pas. Pour les chevaux, ça pourrait marcher, même s'ils mangeaient essentiellement du renne, mais pour les aurochs, ça ne marchait pas. Et une hypothèse que j'avais émise, parce que cette idée que les animaux dangereux, certains animaux dangereux sont représentés fléchés, par exemple à Lascaux, c'est une idée qui existe aussi dans les anciens manuscrits égyptiens, qu'on retrouve dans le Sahara, que j'ai retrouvé dans d'autres endroits rupestres, c'était que les animaux dangereux, lorsqu'on les figurait, on avait peut-être l'impression qu'ils allaient s'animer. Vous savez, quand on a un peu l'histoire de tout manu, on représente quelque chose, on a peur qu'il s'anime. Si c'est un cerf qui s'anime, c'est pas grave, le cerf va partir gambader, un cerf ça s'ensuit. Si c'est un auroch qui s'anime, ça devient plus compliqué. Donc, ce qui peut être fait, c'est représenter des flèches au-dessus. Et comme ça, si l'animal venait à s'animer, eh ben, il serait tout de suite porté à décomposition, il mourrait tout de suite. Et c'est comme ça qu'à Lascaux, par exemple, j'ai fait des statistiques dessus, mais les animaux préférentiellement fléchés, c'était que les animaux dangereux, c'était pas les animaux qui mangeaient, c'était les animaux dangereux. J'avais fait le travail pour la grotte de Montespan, par exemple, qui est pyrénéenne. Et on trouve d'ailleurs un serpent acéphale dedans. Et c'est pareil, les animaux les plus fléchés sont les animaux les plus dangereux. Donc toujours est-il pour, je reboucle, cette histoire d'Izi, où c'est des chevaux, des taureaux dangereux qui sortent, qui renvoient des animaux sauvages, possiblement ça pourrait renvoyer à quelque chose de beaucoup plus ancien, où la représentation de l'image aurait pu apporter une crainte de l'animation. Mais il y a un saut qui est quand même assez important, même très important à faire, on peut combler comme on peut, et ça reste de l'ordre du... On pourrait imaginer un mythe sous forme d'Isola, mais ça reste de l'ordre du conjoint de l'hypothèse, et vraiment l'hypothèse brute, sachant que plus j'ai tendance à vieillir, plus j'essaie de tout quantifier en termes de probabilité.
Mais moi j'ai une question peut-être qui rebondit un peu là-dessus, Julien. Est-ce que ça pourrait pas être envisageable, applicablement, ce qu'on appelle ce phénomène de convergence évolutive, où on sait très bien que, a priori, en l'état de la recherche, on sait très bien que les civilisations centra-américaines, elles n'avaient pas eu vent en aucune façon des pyramides d'Égypte. Dans les deux cas, il y a des pyramides. Et là, il en parle dans son bouquin. Et donc, peut-être qu'il y a certaines circonstances, d'ordre politique, avec quelque chose des formes proto-étatiques, certains rapports et tout, ça produit des pyramides dans les deux cas, sans qu'il y ait eu aucun contact, nul, quoi. Il n'y a eu aucune connaissance l'une de l'autre. Est-ce que ce n'est pas envisageable, applicable au mythe, en fait, qu'à certaines circonstances?
Alors, la première chose pour une pyramide, même si on ne connaissait pas les pyramides, essayez de faire la tour la plus haute possible, hein, pour que ça tienne. La tour même ne marche pas, la solution la plus simple, c'est la pyramide. Et on est une espèce suffisamment brillante pour avoir une idée à plusieurs endroits. Tout ce qui est technologie, par exemple comment faire le feu, on l'a découvert, on l'a peut-être oublié, on l'a peut-être redécouvert. Il y a des choses qui relèvent purement de la logique. Une fois encore, on est une espèce intelligente. L'intelligence est la chose la mieux partagée globalement sur l'ensemble de la planète, si on excepte quelques chefs d'État. Et alors attention, je ne parle pas des Européennes, je précise tout de suite, j'avais d'autres projets d'État en tête. Je sors plus du contexte européen, je précise tout de suite, je réalise que ça peut être pris comme un message politique, c'est pas un message politique. Donc tout ça pour dire que l'exemple des pyramides, la convergence, il n'y a rien d'étonnant. Il y a plein de choses, par exemple l'invention de l'arc. Certains soutiennent que l'arc a été inventé à plusieurs reprises, même si maintenant on a découvert des arcs très anciens en Afrique, et qu'il est possible finalement qu'on soit parti avec nos arcs. Le propulseur aurait été inventé à plusieurs endroits. Différencier le propulseur, c'est ce qui sert à lancer une lance pour lancer plus de puissance. Donc tout ce qui est technologique, des convergences, il n'y a rien d'étonnant. Les mythes, globalement, ne sont pas associés à des niveaux de culture différents. Par mythe, bien sûr, une fois encore, je ne parle pas de mythe de fondation qui explique pourquoi tel peuple est à tel endroit, hein, des récits inventés sur mesure pour expliquer, pour donner une cohérence au peuple. Je vous parle, une fois encore, des mythes qui se répandent, qui se diffusent et qu'on retrouve en plusieurs endroits. Il n'y a pas d'association, alors ça, je ne l'ai pas encore publié, j'ai les données, où j'ai regardé s'il y avait des ensembles de mythes associés à des régimes politiques et des régimes sociétaux. La réponse est non. Hein, donc je vous donne les résultats en avant-première, la réponse est non, j'ai écrit dans plein de sens différents, ça ne marche pas. Ensuite, est-ce que ça n'expliquerait pas pourquoi on retrouve les choses seulement, par exemple, dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, ou dans une partie de la Sibérie qu'on ne retrouve pas en Amérique du Nord? Ça n'explique pas le fait que les récits se retrouvent dans certains endroits. Et puis après, ça a compris quand même sacrément notre liberté, parce qu'une fois encore, alors on se transmet beaucoup de récits, mais le propre de l'humain, c'est d'adapter chacun de ces récits. Alors au niveau de l'analyse, c'est pour ça aussi que je travaille sur les bases de données les plus importantes possibles, que je multiplie les chaînes de 0 et de 1, parce qu'une coïncidence, c'est d'ailleurs ça se mesure hein, statistiquement, je peux faire des réseaux. Hein, si vous feuilletez le livre à la fin, je ne sais pas si certains l'ont déjà feuilleté, il y a des réseaux, des choses. Alors, il y a des beaux-arts, bien sûr, mais il y a aussi des sortes d'amas d'étoiles d'araignées. Et en fait, tous les petits traits qui relient de manière un point à un autre, c'est des emprunts possibles et des inventions indépendantes. Je peux calculer dans quelle mesure, dans un arbre, l'arbre s'explique soit par héritage, 80%, par exemple, je veux dire, 75% des données sont expliquées par l'héritage, par d'un point et par un autre, ce qui veut dire qu'il y a 25% des données. Ça peut être de la convergence, hein, ça peut être d'autres chemins, ça peut être d'autres chemins d'évolution. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et pour le prendre en compte, bah, il faut aller vers de plus en plus de complexité. Il faut multiplier les niveaux d'analyse aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut analyser ce que j'ai fait puisqu'on a commencé par l'exemple de la chasse cosmique, ce que j'ai fait en commençant par m'intéresser à la chasse cosmique liée à la grande ours, puis à d'autres constellations, puis d'autres bases de données, et les bases de données de Yuri Bieleskine, ils travaillent des motifs c'est des épisodes. Moi, je travaillais par des petites phrases, puis travailler par des épisodes. Il y a telle chose, tel moment, il y a tel personnage, mais par gros blocs, et il faut que tout converge. Mais clairement, c'est quelque chose à prendre en compte. De toute façon, une fois encore, c'est une hypothèse. Il y a un chercheur, un immense linguiste qui s'appelait Dumézil et qui a dit quelque chose qui était très sage et que je rends complètement en compte, c'est que le jour où ces travaux seraient dépassés, il suffit de changer de rayonnage et de le mettre du rayon science au rayon fiction. Mais en fait, je trouve que la phrase très belle, je trouve la phrase très sage et je trouve aussi très réaliste.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs, chose, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Il y a eu plein de méthodes pour comparer les mythes, pour remonter dans le passé. Chaque méthode a eu son moment de gloire, quelque chose où on avait l'impression que ça fonctionnait vraiment bien. Chaque fois, on a trouvé des limites et on a trouvé mieux après. Donc, après, il y a des choses, tout n'est pas ajouté hein, dans les choses qui sont. Puis il y a des résurgences. Par exemple, le type de la diffusion des récits, c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle. Sauf qu'au 19e siècle, ils expliquaient si ça a été réutilisé pour parler de territoire vital, par exemple, avec tous les débordements, ce à quoi ça a conduit au niveau de la colonisation, des guerres en Europe, etc. C'était pas abordé de manière très scientifique, mais n'empêche que l'idée était déjà là, elle a été améliorée. J'utilise des outils statistiques. Là, actuellement, je suis en discussion avec des chercheurs un peu partout à travers le monde, et il y a d'autres outils qui sont en train d'être mis en place. Et faire des arbres, il y a des choses encore plus sympas que faire des arbres. Des choses qui permettront de gagner en granularité et d'améliorer sans cesse la modélisation. C'est la marge de la science, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « tiens, j'ai fait une découverte, c'est génial », il faut se dire comment l'améliorer, surtout, regarder dans quelle mesure on peut prouver que j'ai tort. Parce que si quelqu'un prouve que j'ai tort, ça veut dire qu'on a un nouveau chemin, on a une nouvelle possibilité et on a de nouvelles questions. Et puis j'en serais ravi, parce que finalement, quelque chose qui marche, ça devient assez ennuyeux au bout d'un moment.
Il y a une question ici.
Alors, j'ai pas lu le livre, mais en prenant connaissance du titre, il m'a semblé que celui-là portait assez spécifiquement sur l'au-delà. Du coup, j'aurais aimé savoir si les résultats de recherche qui ont été produits sur ce livre-là vous ont amené à identifier par rapport aux idées ou aux récits qui touchent à ce thème-là, je sais pas, que ce soit l'âme séparée du corps, les métempsychoses, les forces invisibles, moi j'ai noté aussi la communication entre la mort et les vivants, voilà tout ce qu'on raccorde à peu près parfois à l'au-delà. Si du coup vous avez repéré des anciennetés ou des choses, des idées qui sont très répandues à travers le monde, ou au contraire finalement des choses qu'on croyait anciennes mais qui sont plutôt récentes, j'aimerais mieux parler de ça. Et j'ai une deuxième question, c'est par rapport à vos prédécesseurs aussi. À ma connaissance, un des premiers travaux qui a été mené sur les religions de la préhistoire, c'était Laurent Bourand. Je ne sais pas, du coup, il y a eu des choses avant, probablement, mais... En tout cas, un bouquin qui s'appelle « Les religions de la préhistoire », moi j'ai vu celui-là.
Où il dit d'ailleurs que la religion n'est pas une bonne idée, et que dans le fond, on ne peut rien savoir.
Mais parce que du coup, voilà, vos découvertes ont permis d'invalider aussi un certain nombre de conclusions qui avaient pu être faites par le passé, par des grands chercheurs.
Alors, dans l'ordre. D'abord, les grands chercheurs restent immenses et je me sens toujours tout petit à côté. C'est un premier point, parce qu'il y a un complexe qui existe dans toute science, dans toute recherche, où il y a des gens qui sont persuadés qu'ils vont arriver, qu'ils vont tout révolutionner, et moi, je veux, etc. Il y a vraiment tout l'exemple que je donne du Mézil. Je crois dans les vertus de l'humilité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc deux parties. Première chose, les mythes liés à la mort. Oui, j'ai pu reconstruire une série de motifs qui revenaient, qui existaient probablement lors de la sortie d'Afrique, toujours en termes de probabilité. Il y a une série de récits.
Vous avez une date, pardon, à la sortie d'Afrique?
Oui, mais alors ça s'arrête. Alors déjà, au début, quand j'ai commencé, on était en Afrique de l'Est, maintenant on a un berceau à roulette. Génétiquement, les plus anciens sont en Afrique du Sud, maintenant le conservateur c'est le plus ancien, d'un simussu humain, on le retrouve au Maroc. Et les sorties d'Afrique qui sont sorties, sont rentrées. Donc généralement on considère qu'il y a deux vagues de migration, qui se sont répandues et avant et après 65 000 ans. Hein, mais là, c'est pas des sorties qui sont brutales, ils sont rentrés, ils sont repartis, ils ont regardé à quoi ça ressemblait dehors, ils sont dit c'est un seigneur en Afrique. Hein. C'est un grand bazar. Hein,
donc, c'était juste pour essayer de donner une échelle de temporalité pour des gens qui ont peut-être pas l'habitude de manipuler ces.
Bon, alors. Globalement, la première sortie de l'humanité d'Afrique jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on commence à se répandre sur les pourtours de l'Afrique, actuellement c'est autour de 130 000 ans. Sachant qu'on a trouvé des restes discutés, hein, jusqu'en Asie peut-être plus anciens, le problème c'est qu'on a eu, il y a eu d'autres espèces humaines et que certaines espèces humaines ressemblent à d'autres et que juste sur un petit coup d'os, les discussions parfois. Donc c'est le point, là encore, c'est le propre de la science, c'est comme le peuplement des Amériques. Actuellement, il y a tendance à rajeunir, et puis revieillir, puis rajeunir. On a trouvé des pierres taillées, on se dit « Ah, génial, on la voit pouvoir remonter de 30 000 ans », puis on s'est rendu compte que les singes pouvaient les tailler comme ça. Voilà, donc c'est... Non mais voilà, mais c'est, en fait, c'est le principe de la science, hein, l'idée de consensus scientifique, et c'est la beauté de la science. La science, c'est qu'on ne sait pas et qu'on essaie de trouver mieux. Hein, et on essaie d'avoir... Et puis quand quelqu'un a dit quelque chose, tout le monde essaie de prouver, de montrer qu'il a tort, ou qu'il a raison. Mais, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nathalie en Afrique du Sud, est-ce qu'il enterre les morts, est-ce qu'il enterre pas les morts. Mais c'est très intéressant parce que du coup, ça fait des discussions de haut niveau et je mets moins du sujet. Donc, j'y retourne. Donc, quoi qu'il en soit, oui, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des mythes, il y a une série de mythes, ce que j'ai le mieux reconstruit, ce qui semble se conserver le mieux, c'est les mythes d'origine de la mort. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas un mythe d'origine de la mort pour construire plusieurs motifs, et ça correspond bien à ce qu'on sait des sorties d'Afrique. Hein, ce n'est pas un petit peuple qui est sorti d'Afrique, c'est plein de populations qui sont parties, revenues, etc. Et il n'y a aucune raison de croire que la diversité mythologique à l'époque était différente de celle d'aujourd'hui. Donc, surtout qu'actuellement, on fonctionne avec l'idée qu'il y a plein de groupes d'humains qui seraient mélangés avant de partir, isolés, et ça expliquerait la diversité mythologique. Donc, aujourd'hui j'ai parlé par exemple de l'histoire de la belle divin. Il y a un récit qui raconte comment, qui a été étudié. Alors, moi je l'ai étudié au niveau du motif, Jean-Louis Le Québec l'a étudié au niveau des versions qu'on dit, et ça raconte comment l'une envoie lièvre annoncer aux humains qu'ils seront immortels. Sauf qu'il ne faut jamais faire confiance à un lièvre. Et la première chose qu'il fait, c'est d'être constamment mortel, et il revient très fameux. Du coup, on est mortel, en simplifiant. Et il revient, l'une n'est pas très content, c'est un homme, ils se battent, c'est aussi pourquoi le lièvre, vous savez, a l'air fondu, c'est explique les taches sur la lèvre. Donc ça aussi, c'est un récit qui s'est diffusé probablement au moment des premières sorties d'Afrique, il y en a plusieurs sur l'origine. Ensuite, au niveau de l'au-delà, il y a l'histoire de la Voie lactée dont je vous ai parlé. Sachant que la Voie lactée, là encore, il y a la Voie lactée comme rivière, il y a la Voie lactée comme chemin des morts. Et les aborigènes des peuples, les aborigènes d'Australie qui ont résolu le problème, hein, c'est la Voie lactée, c'est une rivière sur laquelle volent des morts. Hein, mais possiblement, mais c'est ça aussi, les combinatoires, on est forcé de faire des catégories pour pouvoir reconstruire, mais c'est des choses qui potentiellement étaient liées entre elles. Il y a l'idée que les morts, lorsqu'il y a des tremblements de terre, c'est des morts qui veulent sortir et qui secouent la terre. Ça aussi, ça a l'air d'être une idée un petit peu naïve, et retrouvé partout, mais non, en fait, ça se retrouve dans l'hémisphère sud et en Amérique du Sud, et d'un point de vue, en utilisant les statistiques, on peut bien voir l'origine. Quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir, parce que le problème, c'est que du coup, je suis sur mon prochain livre, puis je suis en train de réfléchir, et je suis sur une série d'articles, et je commence à pratiquer la terre roulée. C'est-à-dire qu'une fois qu'un livre est fini, je pose le dossier, et je reprends un autre, sinon j'ai l'esprit vite saturé de récits et de mythes. Donc ça, c'était le premier point. Il y a aussi ici aussi une histoire qui raconte que le soleil est un animal, est un ongulé, et qu'il est tué chaque soir et qu'il est mangé. Et le chasseur, comme il prend un os de cet ongulé, il va le jeter dans le monde, dans la direction du soleil levant. À partir de cet os, le soleil va se reformer et va revenir. Et là aussi, c'est intéressant parce que pour le coup, on a des traces archéologiques, des choses qui pourraient correspondre aussi bien en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique. Donc là, voilà. Donc ça, c'était la première chose par rapport au récit. La deuxième chose, j'ai trop parlé, j'ai oublié.
En tout cas, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que chaque fois, ça correspond quand même plutôt à des lieux identifiables. C'est-à-dire que c'est des objets qui se situent soit dans le ciel, soit sous terre, tout ça. Moi, ce qui me questionne, c'est l'avènement de lieux invisibles. Vous voyez ?
Alors, au niveau juste... Alors,
d'être invisible.
Alors ça, c'est là, pour le coup, c'est... Alors, l'idée, si la voie de les humains, les morts peuvent prendre la voie lactée, c'est qu'il y a déjà cette idée d'esprit qui, au moins une âme, parce qu'il y a des cultures où on a 10, 30, 40 âmes. Hein, donc, faut pas se dire qu'on a la répartition corps-âme qui est la nôtre et celle qui a évolué à travers l'autre. Mais il y a au moins une partie de l'humanité qui s'en va. Sachant que dans certaines cultures, là encore, il y a une partie de l'humain qui va partir là, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas, et puis une forme combinatoire régulière de morceaux à l'imagine. J'ai travaillé sur ce qui se passe après. J'ai travaillé sur des mythes, sur des choses qui, la manière dont on se lève le monde d'après. Le problème, c'est que là, les statistiques ne peuvent plus dire. Parce que c'est trop varié et je n'ai plus rien. C'est-à-dire qu'en restant dans le cadre scientifique, ce qui peut être mesurable, c'est le moment où je fais un pas en arrière et je dis « je ne peux rien en dire ». Après, il y a plusieurs hypothèses. Soit il y a un biais, c'est-à-dire que le corpus que j'ai étudié, il peut y avoir des biais liés au corpus. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que, parce que nous, on a une relation particulière avec les morts, mais les morts sont intégrés dans nos vies, mais dans beaucoup de cultures, les morts, dès qu'ils sont morts, on s'en débarrasse. Il y a même des systèmes où on enterre le mort, on revient un mois plus tard pour lui retirer la tête pour être sûr qu'il ne revient pas. Donc, on essaie de les oublier le plus vite possible aussi. Par exemple, en Amazonie, le mort, on parlait d'Amazonie, dès qu'il est mort, on va essayer de l'oublier vite, parce que si on s'en souvient, on parle de lui, il y a un risque, c'est qu'il revienne. Donc, il y a peut-être ce biais-là. Peut-être que finalement, ce qui les intéressait, c'était l'origine de la mort, le chemin, mais ce qui s'est passé après, ils ne voulaient pas savoir. En fait. Et pour eux, c'était, ils étaient très bien là où ils étaient les morts, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de conservation des choses. Voilà. Après, il peut y avoir aussi un problème d'imagination. Autant il y a des choses, des chemins plus ou moins contraints, où on a tendance à répéter les mythes, autant que si chacun a inventé sa propre version de l'au-delà, je ne peux rien en dire non plus. Donc voilà, ça fait beaucoup. C'est le moment, et une fois encore, je reste dans un cadre statistique, scientifique, mesurable, que j'essaie de rendre réfutable au maximum. Là, je ne peux rien en dire. Après, si quelqu'un veut s'attaquer à la chose, ça fait plaisir. Il y a du travail.
Il y avait une autre question.
Oui. Qu'est-ce que vous dites, pardon, très vite ?
Non, je te donnais la parole.
Je pensais qu'il fallait. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs questions, je les ai notées. La question qui croise sur un thème qui traverse un peu le temps. Alors, d'abord, je me demandais si... si j'ai bien compris, en fait, on ne peut pas... moi, je pensais qu'en fait, pour essayer de trouver les mythes, remonter dans les mythes les plus anciens, que du coup, on allait isoler les plus petits dénominateurs communs. Et du coup, on se retrouverait avec, par exemple, ce mythe, où il y a le chasseur qui est je ne sais pas quoi, et après, il se complexifie, il se diversifie en plusieurs. Mais visiblement, d'après ce que je comprends, c'est pas forcément ça, c'est peut-être même une longue histoire.
Je vais éviter de retomber sur la voie, je me rappelle la deuxième question, je reviendrai après.
C'est ça.
Si ça ne vous embête pas, je vais répondre au fur et à mesure, parce que je risque ensuite d'oublier une question. Le problème de cette idée, ça impliquerait que nos ancêtres aient des récits plus simples qu'aujourd'hui. Parce que si on va vers du plus complexe au plus simple, ça voudrait dire que la structure de base serait simple.
Non.
Le deuxième problème...
C'est pas ça que je pense, c'est que en fait, pour... nous, pour retrouver la première structure, vu qu'on a perdu... non, c'est que eux, leur histoire est peut-être très complexe, mais du coup, on ne peut retrouver que le dénominateur commun à toutes les variations observées par la suite.
Oui, alors, par définition, oui, on ne peut pas retrouver des traits qui n'existent plus aujourd'hui.
Oui, mais du coup, d'après ce que je comprends de votre exposé, en fait, on arrive à retrouver des histoires complexes. Dès l'origine.
Alors en fait, on reconstruit quelque chose qui aurait existé et qui est très très loin d'être aussi complexe que l'histoire d'origine. On reconstruit ce qu'on peut reconstruire à partir des données qu'on a.
Oui.
Et c'est quelque chose, au fur et à mesure où les données se rajoutent, de nouvelles cultures se rajoutent, à l'équation on rajoute de nouvelles choses, qui peut se complexifier. Un trait qui aurait été oublié de transmission en transmission, on ne pourra pas le retrouver. Ce qu'on peut avoir, ce qui arrive parfois, c'est qu'il y a un saut logique. Ce qui peut s'observer, c'est qu'il y a un saut logique qu'on n'explique pas. Par exemple, je reviens en Amazonie, mais c'est un terrain que je connais bien. Au début, je voulais consacrer ma thèse à l'Amazonie, et finalement, je suis parti sur la mythologie africaine. Il y a des récits qui sont connus par certains peuples, qui sont connus par d'autres, et il y a des versions plus ou moins conservées. Et on a des sauts logiques dans le récit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, mais qu'ils essaient de garder au maximum. Et on sait qu'il y a un saut logique parce qu'on a une version plus complète dans le peuple d'à côté. Donc lorsqu'on reconstruit les choses, si on voit qu'il y a un saut logique, on peut se douter qu'il y avait comme un puzzle où il manque une pièce, on peut se douter qu'il manquait quelque chose après. Savoir à quoi ressemblait la pièce, non. En état, sauf si on invente une machine à remonter dans le temps, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire, là encore, on pousse au plus loin au niveau des probabilités, des statistiques. Une fois encore, à partir des données qu'on a, si on change les corpus, on peut avoir d'autres résultats. C'est le principe du test. Hein. Mais on ne pourra pas aller... Je ne vends pas la méthode comme quelque chose que ce n'est pas. Ce n'est pas une machine miracle pour remonter dans le temps. C'est quelque chose qui permet, au mieux, à partir des résultats actuels, de reconstruire les choses.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs. Cheuses. Ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Excuse-moi, j'essaie de reprendre tes mots, mais c'est que t'aurais pensé que ce serait plus épars ou beaucoup plus moins consistant ce qu'on aurait pu retrouver.
Oui.
Ah oui.
Et alors, quand ce que je constate, c'est qu'il y a des histoires complexes.
Et oui.
Et du coup, la suite de cette question, c'était finalement, si je lis votre livre, ce que j'espère faire prochainement, je vais pouvoir découvrir des histoires de à peu près moins de 50 000 ans, moins de 60 000 ans. C'est ça ? À peu près, les plus anciennes que vous avez réussi à reconstituer, disons, c'est à peu près.
Les plus anciennes sont antérieures à 65 000 ans.
D'accord.
En fait, oui.
Ouais. Non, du coup, est-ce que combien vous pouvez, enfin, combien vous en avez à peu près identifié ? Enfin, est-ce que ça représente. Ces histoires qui viendraient vraiment des plus anciennes, disons, il y en a combien ? Est-ce que vous en avez.
C'est de
10 ou
c'est
200,
quoi.
Je le disais. Alors, par définition, là, dans le livre sur la mort, je sais pas mon livre. J'aurais dû faire un tableau récapitulatif, j'aurais demandé le livre. Non, alors, dans le mythe lié, en travaillant sur le niveau le plus élémentaire, c'est-à-dire le motif, actuellement, ce qu'on est capable de faire en croisant l'ensemble des données, et en faisant une synthèse entre les acquis, parce qu'on est. Donc il y a encore ce chercheur russe sur IBSKI, il y a en France, je suis là, il y a Jean-Luc Le Kellec, il y a aussi Michael Witzel, à l'étranger, enfin il y a différents chercheurs qui travaillent dessus. On remonte grosso modo à une trentaine de récits qu'on peut reconstruire avec des probabilités fortes. C'est déjà assez colossal. Là je suis un peu en train de. En fait, il y en a un peu plus qu'une trentaine. Tout dépend ce qu'on appelle un récit, c'est un motif. Parce que de fait, si on prend en compte le serpent, toute la mythologie d'Ios, de manière sûre, une trentaine. Après, je travaille actuellement sur le prochain livre qui devrait porter sur le dragon et la mythologie du serpent. Là aussi, qui remonte au niveau de la mythologie du serpent à quelque chose de très ancien. Et ça devrait rajouter quelques lignes supplémentaires. Et ça, c'est le temps que les algorithmes fassent leur travail. Mais c'est déjà assez colossal. Surtout qu'il faut bien imaginer la profondeur temporelle. Après, c'est vrai que les mythes, c'est. Quand on regarde, il est facile de montrer un apparent entre des mythes qu'on retrouve en Eurasie et en Amérique. Alors qu'au niveau des langues, c'est extrêmement compliqué. On n'arrive pas à montrer des points communs entre les langues asiatiques et les langues amérindiennes. On peut montrer qu'il y a des mythes qui traversent les Amériques, Lévi-Strauss a fait 4 volumes de mythologie, et montrer que ces récits qu'on retrouve partout, on les retrouve en Eurasie, donc on croit qu'il y a plus d'Amérique. Alors que les linguistes sont encore en train de se demander combien il y a de familles linguistiques en Amérique. C'est assez paradoxal, c'est là qu'on change de langue, mais on aurait tendance à garder nos mythes et à les reprendre. Et ça veut dire que la mythologie peut être considérée, alors il y a là encore, parce que sur la base de Yuri Belskin, il y a un chercheur qui s'appelle Grotaïev, qui appartient à l'Académie de Russie. Alors je sais que par les relations dans le monde de la recherche, je tiens à le dire, sont bonnes. Et l'idée, globalement, on est tous du même avis sur ce qui se passe actuellement. Il y a vraiment des mots différents, je le précise quand même, et de ne pas généraliser. Et Kourpayev et Turina ont montré qu'il y avait des corrélations entre la diffusion de certains mythes et la diffusion de certains gènes. Et ça veut dire que la vitesse d'évolution des mythes correspondra, alors c'est des corrélations, c'est-à-dire qu'il y a des mythes qui débordent un petit peu, des gènes un petit peu, etc. Mais ça implique une chose, ça veut dire que la vitesse d'évolution des récits pourrait en faire des sortes d'horloges moléculaires et rajouter, parce que jusqu'à présent on avait quoi ? On avait la génétique, avec l'ADN qui est quand même un phénomène outil formidable, on avait l'archéologie, et en fait ça permet de rajouter la mythologie. Et là encore, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, parce que ça permettait de boucler ou de répondre à une question.
Oui.
Vas-y.
Alors, je ne sais pas, mais oui, j'en avais d'autres, mais je ne peux pas me monopoliser. En fait, je me demandais, du coup, je vais essayer de les rassembler, sur est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Mio, on est ici. Voilà, parce que moi j'ai été très frappée par la dernière visite que j'ai faite avec un anthropologue qui voilà, c'était bien encore une magnifique, genre des choses qui étaient passionnantes sur peut-être bon, plusieurs trucs. Je ne sais pas si vous avez des mythes sur Mio. Et ensuite, ça me faisait penser aussi à une discussion que j'ai eue assez forte avec un ami voilà, qui est très croyant dans trois monothéismes, voilà, qui disait, mais en fait, on s'affrontait sur le thème de l'évolution, et enfin, on s'affrontait verbalement, mais ça aurait pu dégénérer. Et en fait, voilà, lui, il me disait, mais en fait, la science, elle est aussi imprégnée de mythes, ce que vous disiez, et en fait, comme elle se remet sans cesse en question, elle n'est pas plus valide que ma croyance. Voilà, donc là, quand il pensait, enfin lui, dans sa vision du monde, on n'est pas des animaux. Voilà, on est. Donc c'était difficile. Et donc ce relativisme de dire finalement la vérité, je voudrais bien avoir quelques pistes. Et ensuite, je me demandais s'il y avait des valeurs morales qu'on pouvait retrouver à travers des mythes. Voilà, parce que là, on parle toujours d'événements, des schémas de notation. Mais est-ce que par exemple, je ne sais pas, il y a le courage qui a l'air de se dégager, mais je ne sais pas, par exemple, ce qui est bien, ce qui est mal, le pardon, par exemple, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et ma dernière chose, c'était sur le monothéisme. Est-ce qu'on peut remonter, parce que soi-disant, le monothéisme est arrivé à quel moment, mais est-ce que c'est si...
Alors, dans l'ordre, monothéisme, et ça a été...
Et les collégiens aussi, je me demandais parfois. Les collégiens, comment vous arrivez avec les collégiens? Est-ce que vous arrivez à les passionner sur vos thèmes de recherche? Ou est-ce qu'ils sont passionnés?
Okay.
Parce que vous, c'est passionné.
C'est parti.
Tu peux choisir.
Alors, on commence par les collégiens. Généralement, ils ont tendance à venir, même quand je les ai en 6e et que je les ai plus, ils viennent dans les cours de 3e, etc. Je fais de la philosophie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, et je n'appartiens pas à ce qu'on appelle forcément un professeur. Mais ils font toutes les règles de grammaire, ils connaissent leur conjugaison à l'endroit et à l'envers, je m'entends. Mais je sais les résultats, je vois les résultats que j'ai, et j'ai une pédagogie qui repose sur l'intelligence et le développement personnel. Et c'est très important en REP, surtout qu'ils doivent lutter. Alors après, j'en parle de bon Dieu, par exemple, d'habitude sociale, etc. Mais ils doivent connaître les mythes. Et c'est vrai que j'ai des élèves qui peuvent me citer à la fin, en troisième, j'ai des élèves qui peuvent me citer Kant dans des copies de brevet. Et ça, j'en suis assez fier, je tiens à dire. Donc, ça, c'est le premier point. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on sait des choses, ça ne sert à rien de les garder pour soi. Je viens d'une famille où mes grands-parents étaient d'un milieu populaire. C'est l'école qui a permis l'ascenseur social pour mes parents. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle dans la famille. J'y retourne et j'ai même fait quelques chercheurs. Donc ça, c'est le côté positif. Après, ce qui est bien aussi, c'est que les parents, du coup, suivent les cours. Ça, c'est encore autre chose. Ensuite, pour l'idée de monothéisme, ça a été fait. Parce qu'il y a eu des rapprochements. Le problème, c'est que c'était des rapprochements très superficiels. Après le 19e, au début du 20e, il y a eu des tentatives. Ça tourne en rond en fait, parce que rien que la notion de divinité unique, on fait comment? Il y a le dieu créateur par chloroplastie, il y a la personne qui vient, qui crée, qui s'en va. C'est souvent en Afrique, il y a un créateur, mais qui après disparaît il y a le trickster qui va créer, qui va jouer des tours par la suite. C'est un tel melting pot, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce que c'est que le monothéisme, et c'est un débat où je ne mettrai pas le doigt parce qu'il y a déjà des gens qui s'écharpent très bien pour moi. Ensuite, toujours en remontant les valeurs morales, je ne me prononce pas. C'est toujours, je suis désolé, je manque d'imagination et je passe le relais à toutes les personnes qui le souhaitent, philosophie, psychologie. Il y a des gens qui le font très très bien. J'ai découvert que mes travaux étaient utilisés dans des colloques en philosophie. Ils ont trouvé plein de choses intéressantes que je n'y avais pas vues. Et c'est très bien, chacun sa mission, chacun son travail.
Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, non, qu'on pouvait découper des événements et des actions, et c'est ça que tu comparais, mais pas le sens.
C'est le contexte. Le contexte, on ne pourra pas l'avoir. Et la notion de bien, ne serait-ce que la notion de bien ou de mal, on est imprégné. On parlait de monothéisme, du monothéisme. Ensuite, oui, la science, le principe, c'est qu'elle a toujours tort. La religion, c'est quand on pense à un mythe, le principe, c'est qu'on y adhère, on ne questionne pas les bases. Après, il y a des chercheurs qui découpent les choses très bien, qui ont une sorte de visage bifou, qui vont à la messe et qui ne remettent pas les choses en question, puis qui sont des évolutionnistes, qui pensent, quand ils sont à la messe, que le monde a été créé par Dieu, l'humain a été créé par Dieu, et j'en connais, et qui, arrivés sur le terrain de la science, utilisent d'autres outils. Ça ne doit pas être simple, forcément, de, je pense, de compartimenter, surtout dans les discussions le dimanche. Ça doit être intéressant de compartimenter, mais pourquoi pas. Le principe de la science, c'est de toujours remettre en question. Il ne faut pas oublier qu'on arrive à trouver des choses absolument remarquables avec les mathématiques, qu'on arrive à se rapprocher à une forme de convergence du réel, mais que la fin de la science a été annoncée à plein de reprises. Déjà à la fin du 19e, on pensait qu'on pouvait juste confiner la science, puis Einstein est arrivé. Et maintenant, on était persuadé qu'Einstein serait le dernier mot, et on commence à trouver plein de choses qui ne veulent pas complètement. Il y aura quelqu'un d'autre, brillantissime, ou une équipe qui arrivera à trouver le relais. Donc le principe de la science, c'est de coller au plus près de la réalité et essayer de le démontrer. Si on parle à quelqu'un qui adhère à un mythe, on ne parle pas de la même chose. Lui, il aura son mythe et il y tient. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir une discussion, il ne changera pas d'avis dessus. Si, éventuellement, si je discutera l'interprétation possible d'un texte sacré, mais ce sera vraiment à la marge, il y aura cette idée qu'on y adhère. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il ne se rendra sans doute pas compte que l'interprétation qu'on a des textes sacrés évolue dans le temps et qu'on pourrait sans doute en faire une phylogénie également. La science, c'est remettre les choses en question. C'est fatigant. Il y a un côté assez instable, c'est danser sur la crête d'une vague, toujours en essayant de marcher, et marcher suffisamment, ou de surfer plutôt que de marcher sur une vague, c'est un peu compliqué, de surfer, mais être pile au bon moment et tenir le plus longtemps possible en étant près de la crête, et essayer de toucher la crête la plus proche. Une autre comparaison, la science, c'est vous êtes sur une colline, vous cherchez le point le plus haut, et vous avez deux bâtons, et vous allez passer votre temps à faire des mesures entre les deux bâtons pour voir quel est le bâton qui est le plus haut que l'autre. On se rapproche du sommet. Alors, c'est une fausse piste, qu'on est la colline à deux sommets, qu'on est sur le mauvais sommet. Mais c'est le principe de la science. Et après, on parle de ces deux registres qui sont complètement différents. Si vous voulez en discuter, vous pouvez déjà tomber d'accord sur ce désaccord.
C'est exactement ce que je lui dis, mais en fait, on arrive.
Alors, demandez-lui de trouver un moyen de prouver qu'il a tort.
Oui, mais moi je ne pouvais pas le prouver non plus, parce que je ne peux pas lui prouver que les dinosaures ont existé, par exemple. À part lui dire je le crois parce qu'on me l'a dit.
Là, ça renvoie à autre chose que la science repose sur le principe de confiance, dans l'expertise des autres, sur tout un système où on vérifie les travaux, par exemple les articles, mes travaux ont été revérifiés quand je soumets un article. Normalement, je suis censé avoir. Quand on soumet un article à une revue scientifique, normalement, on a deux relecteurs qui vérifient qu'on ne dit pas de bêtises. Généralement, j'en ai plutôt 4 ou 5, parce que je touche des sujets qui sont tellement disparates, qu'ils essaient forcément de retrouver. Mais c'est revérifié derrière. On teste, on vérifie, et c'est ce qui fait que lorsqu'on publie, et là, on a confiance en l'expertise de la personne. Voilà. Donc, ce n'est pas le même registre, parce que ce n'est pas le même fonctionnement, et c'est des choix qui sont différents. C'est pas un dialogue de sourds, parce qu'on trouve des moyens de communiquer, mais l'ontologie de base est différente. Et ensuite, la dernière chose, remonter dans le passé, ce qui me permet de me connecter à le roi courant que je n'ai pas oublié. Voilà, ça permet de faire la boucle. Alors forcément, oui, on a une machine qui permet de remonter dans les récits, dans le temps. On est européen, on est français, on pense à la rupestre, de manière générale. Et oui, forcément, je m'y suis intéressé dans mon premier ouvrage. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, et pour être complètement honnête, tout mon intérêt pour la mythologie, alors je suis désolé, c'est pas new, ça vient d'une visite à Lascaux, puis à Orfignac, et où je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à faire en ligne dessus, j'ai essayé de trouver, j'ai mis du temps à trouver le chemin.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs CHEUS, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik.
Alors, sur les mythes qu'on peut reconstruire, qui pourraient expliquer de la rupestre, globalement, sur cette idée de remonter dans le passé, il y a deux façons de faire. Il y a deux interprétations qui sont différentes. Toujours avec cette idée de prouver que le récit existait, parce qu'il y a eu plein d'interprétations différentes. Ce contre quoi s'élevait le roi courant hein, dans les religions de la préhistoire, où les gens, pendant un temps, ils allaient prendre plein de choses, ils allaient prendre des éléments en Australie, des éléments en Amérique, puis une sorte de grosse synthèse, et ça ressemble. Donc c'est ce que les Anglais appellent le cherry picking, la cueillette des cerises, chercher des éléments. Donc en utilisant des méthodes rationnelles et basées sur des probabilités pour remonter dans le temps, il y a deux hypothèses qu'on peut reconstruire. Honneur à mon ami Jean-Loïc de Québec, qui a accessoirement été mon directeur de thèse, qui a la gentillesse de me prendre ce que je me suis fâché avec mon premier directeur de thèse, que j'utilisais des mathématiques sur la mythologie. Donc du coup, il m'a repris en cours de route. Et pour lui, les mythes d'émergence sont les mythes qui dominent. Les mythes d'émergence, c'est des récits où l'humanité et les animaux viennent de sous le sol. Pour appuyer la chose, il montre, Yuri Gelskin a montré la même chose sur des corpus différents, il montre qu'il y a une distribution essentiellement dans l'hémisphère sud, qui inclut l'Afrique, l'Australie, etc., et essentiellement l'Amérique du Sud, et que là où il n'y a pas de récit d'émergence, il y a d'autres récits, par exemple le plongeon cosmogonique qui raconte que le monde avant il y a un océan primordial, et qu'on a, en Eurasie c'est souvent un oiseau qui plonge, qui ramène des bases des premiers continents, et en gros là où il y a le plongeon cosmogonique, il n'y a pas de mythe d'émergence, là où il y a mythe d'émergence, il n'y a pas de plongeon cosmogonique. Et pour Jean-Loïc, ça veut dire qu'il y a eu l'ensemble de l'humanité, partout dans le monde, dans le peuplement également de l'Europe des Laurignaciens, connaissait ce mythe d'émergence, des animaux qui sortent de sous terre, je laisse faire le lien. Avec les grottes, ça expliquerait plein de choses, etc. Les animaux qui sortent par exemple des fissures, ou les représentants, pourquoi il est dans des grottes, etc. Voilà. Sauf que là-dessus, je suis en désaccord. Pour une bonne et simple raison, c'est que le mythe du plongeon cosmogonique, je l'ai passé à la moulinette, mais c'était des statistiques. Pour Jean-Louis, il est apparu en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les mythes d'émergence, puis après une nouvelle couche mythologique qui se superpose. Mais en fait, les motifs liés au plongeon cosmogonique, testés sur plusieurs corpus, semblent s'expliquer beaucoup mieux par la diffusion depuis l'Asie du Sud-Ouest, autrement dit l'endroit d'où a été peuplé l'hémisphère nord. Ça voudrait dire que si c'est le cas, le plongeon cosmogonique se serait diffusé en même temps que le peuplement de l'Eurasie, notamment de l'Europe, et ce qui voudrait dire que les premiers homo sapiens arrivés en Europe n'auraient pas reconnu le mythe d'émergence. Donc oui, c'est facile à tester, hein, et on est d'accord sur notre désaccord. Hein. Par contre, ça va très bien, on ne se bagarre pas. On sait comment départager les choses. Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils font un autre récit pour expliquer les grottes. Et toujours en travaillant sur la diffusion, alors j'avais travaillé sur le mythe de Polyphème, où on a une créature surnaturelle qui enferme des animaux sauvages qui sont par la suite récupérés par un humain et sortis de sous le sol. En travaillant sur ce mythe, je me suis rendu compte que le même point d'origine que le plongeon cosmogonique expliquait le mieux la variabilité. Ça veut dire que le mythe de Polyphème, alors vous connaissez l'histoire de Polyphème d'Ulysse, hein, on se cache sous les moutons, on s'échappe sous les moutons, alors c'est pas toujours des moutons, hein, parfois ça peut être des bisons. En Amérique du Nord, il s'échappe même parfois en se cachant dans l'anus du bison, pour tout vous dire. Donc oui, mais c'est culturel. Et je me suis rendu compte que ce mythe, au niveau des probabilités, avait toute chance d'avoir été connu, au même titre que le plongeon cosmogonique, en Eurasie, en Europe de l'Ouest. Et ce mythe renvoie à la maîtresse des animaux. Alors là encore, il faut imaginer, j'ai fait des calculs sur plusieurs corpus, j'ai les mêmes résultats, et ça renvoie au maître ou à la maîtresse des animaux. Le maître ou la maîtresse des animaux, c'est quelque chose qui est répandu encore en Sibérie, qu'on retrouve en Amérique du Nord, et qui dit que les animaux sont protégés par un maître ou une maîtresse qui les détient. Alors il faut être très sage avec eux, c'est-à-dire que lorsqu'on les a tués, il faut faire... faut les renvoyer, il faut garder les ossements, il faut garder une partie de des ossements, il faut, sinon il faut conserver le squelette en entier, il faut l'exposer parce qu'il faut pouvoir rendre le squelette la maîtresse ou au maître des animaux qui va le redonner à la vie. Et il s'avère que les données archéologiques correspondent plutôt bien. Alors il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là, j'en ai fait que des... Là je survole, ça fait un chapitre complet de mon premier livre, je l'ai encore étoffé dans la réédition en poche, et donc ce n'est pas un appel à la vente, je vous le promets, c'est juste que c'est vrai que j'ai mis 300 pages pour en arriver là, c'est vrai que c'est un peu court. Il y a plein de corpus qui se rejoignent, pour montrer que la Terre était féminine. On peut montrer que les mythes d'émergence existaient, on peut montrer qu'il y a des corrélations avec la génétique, la diffusion de certains mythes et la génétique. Voilà, il y a plein d'éléments qui indiquent qu'en Europe de l'Ouest, c'est le mythe qui a le plus de chances, alors Jean-Luc ne serait pas d'accord bien sûr, mais que c'est le mythe qui a le plus de chances d'avoir été connu. Et là, ça explique également pas mal de choses, ça explique notamment dans les Pyrénées, si vous connaissez un petit peu l'art ouest des Pyrénées, vous savez qu'il y a des ossements qui sont mis. Dans les parois, et c'est pas toujours des ossements de gibier et les traditions avec le maître ou la maîtresse d'animaux, c'est avant de partir à la chasse ou en revenant de la chasse, bah on met un petit cadeau symbolique en échange. Il y a la reconstitution, il y a la reconstitution du corps à partir de l'ossement. Il y a l'idée que les animaux semblent sortir. Et puis surtout, il y a quelque chose, la féminisation de la caverne. La femme est partout, mais jamais représentée. L'homme n'est quasiment nulle part. On est la moelle. Autant la matriarchie primitive indique survalorise les hommes, autant l'art des cavernes, les hommes ne sont quasiment nulle part. Par contre, les femmes sont absolument partout. Et ça trouverait tout son sens dans être une maîtresse des animaux qui aurait donné la vie. Et où il y aurait une relation, donc avec une émergence sous le sol. Après, dans les faits, quand on réfléchit, ça ne fait pas une grande différence entre ce que dit Jean-Louis et ce que je dis. C'est juste que ce que je reconstitue, c'est qu'il y a un acteur, quelqu'un qui suscite l'émergence, qui provoque l'émergence et le retour, qui gère voilà, les relations entre les animaux et l'extérieur. Tandis que pour Jean-Louis, les animaux sont sortis une fois pour toutes. Et c'est un récit de création. Donc c'est plutôt rassurant de voir que c'est un chemin complètement différent sur la grande théorie en général qui se rejoint. Et pour revenir donc à le roi Goron, ce que reprochait le roi Goron, même s'il a été tenté, hein, il a rapproché l'art rupestre du chamanisme dans un texte qui est relativement peu connu. Ce qu'a reproché le roi Goron chercheur, c'est de ne pas démontrer les choses. C'est-à-dire qu'il lançait des explications, qu'ils allaient piocher un peu partout à travers le monde, et il disait « Ah, c'est bizarre, ça colle !» Il voulait prendre quelque chose qui existait en Australie, c'est pas démontrer que le récit existait au moment voulu en Eurasie de l'Ouest. Donc, est-ce que ça change la donne? Oui, ça change la donne. Ça ne permet pas d'avoir la réponse au dernier mot. L'art des cavernes est très complexe. Il y a plein de choses qui sont différentes. Par exemple, au Rufignac, ça colle ni avec une idée, ça colle avec aucune des deux théories. Par contre, ça colle avec un mythe qu'on trouve encore en Sibérie, en Amérique du Nord, où il y a un serpent et un mammouth qui façonnent le monde. Ça, c'est encore, ça ouvre encore sur plein d'autres choses. Mais ça permet de limiter les hypothèses disponibles. Ça ne permet pas d'avoir le dernier mot. Ça permet juste de se dire, d'accorder un coefficient à telle ou telle hypothèse. Et c'est un travail qui est dur. D'autant plus que plus on remonte dans le temps, et moins il faut se contenter des preuves uniques. Il faut fonctionner à la manière des lasagnes ou des capas, hein, pour reprendre mon image, et essayer de multiplier les éléments, ne pas avoir peur que ça s'effondre également, prendre les risques. Parce que quand je prends un corpus que je n'ai pas créé, autant je pourrais me dire, oui, il y a des biais. Et vivre dans mon confort ou avoir un résultat et dire ah, c'est donné, reprendre, retester, c'est volé. Il faut en permanence remettre les choses en chantier. Et une fois encore, je suis persuadé que ce n'est pas le dernier mot, qu'il va y avoir d'autres hypothèses, qu'il y aura de meilleures solutions. C'est le propre de la science. C'est juste que, pour le moment, c'est ce qu'on a de mieux, et après, ça laisse. Il faut bien réaliser, hein. Je vous rappelle, il m'a fallu 6 mois pour me familiariser avec les outils statistiques. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Donc, non, mais vraiment, parce que je n'étais pas forcément... Et si les personnes veulent tester, si les personnes veulent s'y essayer, c'est aussi des règles de la science, hein. C'est pas réservé... c'est pas réservé à une élite. Si vous voulez étudier le fond cosmique, la diffusion du fond cosmique, vous allez avoir besoin de certains outils scientifiques que tout le monde n'a pas. Mais il y a certaines choses que l'on peut tester par soi-même. Il faut lire, beaucoup lire, tester, utiliser d'autres outils, mais il y a plein de choses qui sont faisables.
Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière
question? Ça serait bien de couper bientôt là.
Oui. Parce que ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui me fait.
Alors, on regarde et après, on va peut-être arrêter. Ouais, super.
Alors, vous avez une question de type marxisante, mais ça ne rentre peut-être pas dans votre champ de réflexion. Je me demandais si parmi la diversité des mythes que vous avez travaillé, étudié, est-ce qu'on retrouve des antagonismes entre les mythes qui peuvent correspondre à des antagonismes de classe, c'est-à-dire est-ce que parfois il y a un mythe à l'intérieur d'une même culture qui est privilégié, qui se construit contre un autre, et est-ce que ça pourrait correspondre à des conflits politiques, ou est-ce que les mythes transcendent ces conflits politiques?
Alors, on parlait de la matriarchie tout à l'heure, hein, où clairement il y a un conflit entre deux populations, c'est pas un conflit à deux, et la volonté de soumettre une moitié qui essaie de soumettre l'autre moitié en légitimant la chose par le récit. Donc, de fait, au niveau des rapports de force, il y en a. Il y a des récits, quand on parle, par exemple, de Polyphème, ça implique une forme de hiérarchie également, avec des donateurs et des receveurs, un maître ou une maîtresse des animaux et la personne qui reçoit. Donc, il y a une idée aussi de hiérarchie spirituelle. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est un chantier que je lance depuis un moment, mais il faudrait que j'aie le temps, parce que l'air de rien, ça prend tout ça, je dors peu. Il y a des récits où il y a des tâches qui sont données par un chef, par un père ou un chef de tribu. C'est des mythes qu'on retrouve un petit peu partout en Eurasie et en Amérique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que les tâches qui étaient données sont souvent les mêmes. Et ça voudrait dire quelque chose pour parler de... Alors, une fois encore, je me contenterai de reconstruire la chose et je laisserai à chacun le travail lorsque j'aurai le temps de faire. Mais ça permettrait de poser des questions, notamment au niveau de l'inégalité dans la société préhistorique et de voir la manière dont c'est fait. Ce sont les tâches qui pourraient être reconstruites. Ça pourrait donner une idée des rapports de force qui existaient, alors pas au moment de la sortie de l'homme d'Afrique, ce serait quelque chose de plus tardif, mais potentiellement, parce que c'est aussi un peu le principe, hein, c'est qu'avant de commencer, je ne sais pas ce que je vais obtenir, potentiellement on pourrait avoir des résultats là-dessus. Mais ça, c'est un travail. Ben voilà, je vous disais, il y a des choses à faire, si ça vous tente.
Merci. Est-ce que Marie, tu veux raconter? Nous, on va peut-être s'arrêter là, je pense, sur le problème, voilà. Oui, mais est-ce que tu veux noter ce qui se passe aussi après?
Il y a Bernard Lahire qui vient. Et honnêtement, son ouvrage est remarquable, mais je ne dis pas ça parce qu'il dirige la collection que j'ai publiée. Mais son ouvrage donne beaucoup à penser, ouvre sur mille chemins différents, pas les mêmes que ceux que j'ouvre. On n'est pas sur les mêmes chemins, mais ça rejoint actuellement en sciences humaines. Et ce qui est étonnant, pas forcément par les personnes qui étaient dans le courant principal, il y a une forme d'école qui se crée, qui a tendance à utiliser des outils plus scientifiques pour aborder les sciences humaines, tout en gardant la spécificité des sciences humaines, c'est aussi c'est important, en laissant à chacun ses champs disciplinaires. Par exemple, par rapport à mes travaux, je suis le premier surpris parce que j'ai appris récemment qu'il y avait une école française de mythologie. Oui, alors je l'appelle ça, il paraît qu'à Oxford, on parle d'école française de mythologie maintenant quand on parle de statistiques appliquées à la mythologie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau qui a lieu, qui est en train de transparaître. Il y a beaucoup de... On est face à une bascule. Je ne sais pas du tout ce qui sera retenu de cette bascule, si ça va perdurer ou pas. Mais si vous savez, comme au temps où il y avait vraiment une école française de pensée, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner qui est assez intéressant. À savoir si ça va se maintenir, sachant que ça prend des chemins un peu détournés, ça passe principalement par l'étranger pour revenir en France actuellement. Est-ce que ça va se maintenir? C'est une bonne question. Mais il y a quelque chose de très très intéressant. Et Bernard Lahire est un des porte-drapeaux de cette nouvelle façon d'aborder les sciences humaines. De reprendre des grandes synthèses, ce qui n'était plus le cas depuis un moment dans l'univers francophone. Est-ce que j'ai bien entendu, Bernard? Voilà. Ben, en tout cas, si vous voulez poser des questions après, ce sera avec plaisir.
Merci. Merci.
Les rencontres sciences humaines en Ariège. Les problématiques de société étudiées par les chercheurs CHEUS, ça vaut le coup de s'y intéresser, puisque ça parle de nous. Alors branche-toi sur Radio Kipik. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet www.radiokipik.org.